Bien, chers amis, en ce début du troisième exposé, qui est reproduit sur la face B de la deuxième cassette, nous allons passer à la deuxième démarche concernant la vérité. Nous avons vu jusqu'ici que Dieu est vérité, qu'il est source de toute vérité. Demandons-nous maintenant, dans une deuxième question, à quelles conditions je puis m'imprégner moi-même, ou plutôt me laisser imprégner moi-même de cette vérité, et devenir, pour ainsi dire, moi aussi, un être de vérité, un être profondément vrai. Disons d'abord que le plus profond de sa vérité d'être, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne soi-même. Nous n'avons pas à définir nous-mêmes notre vérité d'être. Cette raison ou cette vérité d'être, puisque Dieu, on vient de le voir, est la source de la vérité, notre vérité d'être nous a été donnée par Dieu lui-même, notre Créateur, dès l'origine du monde, et notre origine à nous en particulier. Donc, nous n'avons pas à imaginer notre définition d'être. Elle existe déjà. Il nous appartient de la rechercher, de l'accueillir telle qu'elle, et de nous y conformer. Et pour y arriver progressivement, il y a deux séries de moyens qui ont été mis à notre disposition. Il y a ce qu'on appelle la conscience intérieure, soit la conscience naturelle, soit la conscience inspirée. Et par cette voie, V-O-I-E ou V-O-I-X, on est déjà mis et gardé sur la bonne piste. Il y a également la connaissance qui nous vient de l'extérieur, la connaissance de la parole de Dieu en général, de ses commandements, de ses conseils, de ses béatitudes, l'enseignement qu'on reçoit, l'éducation, l'accompagnement, tout cela nous profile de plus en plus clairement quelle est la raison d'être d'un humain ou la vérité d'être de l'homme sur terre. Donc, parce que nous sommes des êtres créés, notre modèle d'être relève du Créateur. C'est lui, et uniquement lui, qui sait vraiment pourquoi il nous a créés et ce qu'il attend de nous. Et c'est à chacun de faire l'effort pour découvrir, accueillir, accepter, bien digérer, bien intégrer sa prédéfinition d'être, sa raison d'être profonde, s'il veut être et demeurer un être de ou dans la vérité. Sinon, il risque un dédoublement ou une confusion d'être. Toute autre précision d'être que j'ajoute en fonction de ma vie et de mon travail au cours de mon existence doivent et devraient normalement toujours s'ajuster à la vérité d'être essentielle déjà définie par Dieu et inscrite au plus profond de mon être. Sans cela, la paix intérieure sera sans cesse menacée, voire même compromise. Et ignorer ou fuir la connaissance ou la conscientisation de cette vérité d'être qui a été établie par Dieu quant à chacun de nous, c'est courir des risques et des dommages constants, c'est remettre l'inévitable à plus tard, c'est une perte de temps et d'effort, et c'est souvent déclencher des malaises de tout ordre. Beaucoup de dépression, beaucoup de somatisation n'ont rien d'autre à l'origine qu'une méconnaissance ou une ignorance volontaire de la vérité d'être dans laquelle nous devrions nous situer. Évidemment, il faut bien l'avouer, c'est exigeant. Il faut avoir sa grâce. Mais c'est son amour, encore une fois, ce fleuve de charité, qui, s'il agit en nous, l'amour nous conduit à la vérité, parce que l'amour apporte dans son cortège la lumière, la force et la persévérance pour y arriver. Ceci dit, faisons donc un autre pas en avant. Demandons-nous maintenant quelles sont les composantes de cet être de vérité. En d'autres termes, ces vérités de base qui viennent de Dieu et qui doivent constituer ma vérité d'être. Et ici encore, vous savez, je plonge, ces enseignements, je vous l'ai dit dès le début, c'est du partage du vécu. Je n'ai pas été chercher ça dans des grandes théories et dans des structures préfabriquées. Mais pour les fins de l'enseignement, j'ai dégagé une douzaine de vérités de base. Elles me paraissent à l'expérience de la vie, celle des autres et la mienne, les plus importantes parmi bien d'autres possibles. J'insiste encore une fois, il s'agit de vérités de base qu'il ne faut absolument pas se contenter d'entendre, de connaître, mais qu'il faut volontairement et consciemment accueillir comme vrai et sûr, qu'il faut approfondir, bien intégrer, se rappeler à soi-même périodiquement, afin que ces vérités-là inspirent, orientent, soutiennent l'ensemble de nos options et décisions dans la vie et le travail et toute autre situation. Ces vérités, évidemment, nous n'allons pas les développer longuement. Je vais les énumérer et les commenter rapidement. La première vérité, c'est que nous sommes un être créé, des êtres créés, donc dépendants du Créateur. Comme toute invention, d'ailleurs, relève de son inventaire, de son inventeur plutôt. Une radio ne peut pas décider contre l'inventeur d'être une télévision. Une voiture ne peut pas se changer en avion. Donc, pour nous les humains, il y a une dépendance qu'on ne peut pas supprimer entre Dieu et nous, entre le Créateur et l'être créé. Et on a le don de la liberté à concilier avec cette dépendance. C'est le Créateur qui a établi la nature humaine, c'est à lui qu'il faut rendre compte, de lui contient tout, la vie, les talents, et qu'il y a une égalité fondamentale entre tous les humains, quant à leur origine et quant à leur destinée, malgré les nombreuses inégalités qu'on connaît dans le monde et dans le parcours des vies. Une deuxième idée de base, c'est qu'on a été créé à son image et ressemblance, donc selon un modèle précis, et en fonction de lui. Le catéchisme, si vous vous souvenez comme moi, précise qu'on a été créé pour le connaître, l'aimer, le servir. Et que Dieu est amour. Par conséquent, je dois être un être d'amour. Et le plan de Dieu, son image et sa ressemblance, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de flou, de fictif, de fantaisiste. C'est une image et une ressemblance bien précise. Dans la Genèse, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Donc, sur Terre, toute nouvelle définition de l'homme, où on ne retrouve pas la ressemblance et l'image de Dieu, est fausse, est erronée au point de départ. Et on connaît un tas de philosophies et de doctrines actuelles qui font des tableaux en couleur de l'homme, de la raison d'être des humains sur Terre, et c'est voué à l'échec au point de départ. C'est biaisé au point de départ. Troisième vérité, nous sommes des êtres créés, invités à la perfection. Dieu aurait pu nous créer parfaits, mais il nous a créés inachevés, perfectibles, appelés au perfectionnement continu. Il nous a même invités à la sainteté, comme celle du Père. Dans Matthieu 5, 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et on trouve dans le Lévitique 19, 2 « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. » Alors quand les gens sortent des dictons comme « faut pas être plus catholique que le pape », ils sont bien en deçà de la réalité, il faut être saint et parfait comme Dieu. Et tous ceux qui, dans leur existence, ne veulent pas changer, se croient arrivés, ne sont pas des êtres dans la vérité ou des êtres de vérité. Quatrième vérité de base, nous avons été amochés, blessés par la chute originelle, mais rachetés et restaurés par Jésus-Christ Sauveur. Paul nous dit, « Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce en vertu de la rédemption. C'est par la grâce du Seigneur, lisons-nous dans les Actes des Apôtres, du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » Romains 5, 15, « Si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus sur la multitude? » Paul ajoute, « Où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Alors, c'est une vérité de base qu'il faut accueillir, que c'est vrai que la nature humaine a été blessée, elle a été secouée, mais c'est également vrai qu'elle a été restaurée. Autre vérité de base, nous sommes des fils et des filles adoptés par Dieu et conviés à la vie éternelle avec lui. Et dans le petit catéchisme, à l'article 4, on lisait « Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde et pour être heureux avec lui dans le ciel pendant l'éternité. » Moi, si j'avais à faire une nouvelle édition du catéchisme, je corrigerais ça parce qu'on peut déjà être ici-bas et dès maintenant, heureux avec lui. Et pas seulement dans le ciel. Ça a eu l'inconvénient, cette définition-là, de mettre d'un côté la vallée de larmes et puis après ça, le paradis tout rose. Mais on peut importer la vie de l'au-delà dans notre vie. Et la paix chrétienne, la paix intérieure profonde dont on parle, c'est déjà ça. C'est de l'importation en plein de la vie éternelle en soi, dès maintenant. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous sommes des gens qui sommes appelés à une grande vie éternelle. Donc, toute notion qui fait de l'être humain un être de passage, un être quelconque, qu'on peut tuer, qu'on peut éliminer, comme ça se fait dans des purges dans certains pays, puis tout ça, puis les êtres humains, c'est négligeable, mais c'est monstrueux face à la vérité. Sixièmement, on est placé au cœur d'un combat spirituel constant et acharné, face aux forces du mal toujours actives et, on le sait, présentement particulièrement déchaînées. Ce bon combat dont nous parle Saint Paul, il va falloir en reparler en Église. Il y a trop de chrétiens qui sont assis dans les estrades, tout en mitouflés, qui regardent passer la parade. Ils n'ont pas d'idée qu'on a été baptisés et conviés à être des combattants pour le bien. Et ce combat est un véritable combat spirituel, en esprit et en vérité et en acte, à l'intérieur de soi d'abord, autour de soi, dans le monde et dans l'Église. On n'est pas dans la vérité de son être quand on pense que les forces du mal n'existent pas, et puis qu'elles ne sont pas dirigées, et puis très actives, et puis orchestrées. C'est fermer les yeux sur une des caractéristiques très importantes de la vie dans laquelle on est. Septièmement, il faut savoir qu'on est équipé de tout ce qu'il nous faut pour vivre et triompher. On a reçu, en plus de notre organisme naturel, un organisme surnaturel complet, avec non pas la circulation du sang, mais la circulation de la grâce, qui est entretenue et accrue par la prière, les sacrements, les dons et tout ce que vous voulez. C'est par la grâce de Dieu que je suis, dit saint Paul aux Corinthiens, ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. J'ai travaillé, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. À chacun de nous, dit-il aux Éphésiens, a été donnée la grâce selon la mesure du don du Christ. Et saint Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 10, « Quand vous aurez souffert, le Dieu de toute grâce vous rétablira. » Huitième vérité qu'il faut assumer, accueillir et intégrer et digérer, c'est qu'on est des êtres, nous sommes des êtres voués à la tentation, à l'épreuve et à la souffrance. Et qu'il est donc important d'établir d'avance dans la vie sa philosophie, sa psychologie et sa spiritualité face à la tentation, à l'épreuve et à la souffrance, et pas attendre que ça nous tombe dessus pour là tout à coup essayer de composer avec notre souffrance, avec la tentation ou avec l'épreuve. Trop de chrétiens, et d'humains sont pris par surprise. Et alors, c'est l'improvisation, c'est la panique. Alors que ces souffrances, ces épreuves et ces tentations, le Seigneur le dit dans l'Évangile, nous sont, j'allais dire, octroyées ou sont permises pour notre purification, pour un rappel à l'ordre, pour une mission de co-rédemption. Ce n'est jamais au-dessus de nos forces. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, 13, saint Paul dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir. Mais, si je ne me prépare pas à savoir que je vais être tenté, je serai toujours pris de court. Si je ne me prépare pas à être éprouvé, arrivera l'épreuve, puis je me sentirai rejeté par Dieu, alors qu'il permet peut-être l'épreuve pour me faire grandir, c'est peut-être une faveur, puis il me permet peut-être une épreuve pour obtenir des grâces de co-rédemption pour d'autres. Mais si je n'ai pas pensé à ça, je me fais toujours... je ne suis pas dans la vérité de mon être. Du fait que le Christ a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir, dit saint Paul aux Hébreux, en aide à ceux qui sont éprouvés. Je dis saint Paul aux Hébreux, il y en a qui prétendent que ce n'est pas de saint Paul, alors je mettais ça en parenthèse en passant. Neuvièmement, nous sommes destinés inévitablement à la mort du corps et en même temps, paradoxalement, à l'immortalité. Moi, dit Jésus à propos de Lazare, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, Jésus, même s'il meurt physiquement, vivra immortellement. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Demande-t-il à Marthe. Alors, c'est la même chose. Les gens vont faire leur testament, ils vont préparer leur dernière volonté par écrit, ils vont disposer de tout ce qu'il y a, mais intérieurement, ils n'ont pas réfléchi sur la venue de la mort, sur l'attitude à avoir, et alors quand arrive la phase terminale ou l'accident mortel, ou ils sont encore pris à improviser. Il faut se donner la peine pour être dans la vérité de son être, de voir ça d'avance. Parce qu'on sait que ça fait partie du scénario de tous les humains. Dixièmement, nous sommes des co-créateurs. Associés pour continuer l'œuvre de la création selon l'Esprit de Dieu. Dieu aurait pu s'arrêter la moitié de sa force de créer un univers civilisé, développé scientifiquement et techniquement de façon instantanée. Il aurait pu nous mettre au monde dans un univers achevé. Mais, on le sait, dans la Genèse, il a confié aux humains les pouvoirs de compléter, associés à lui, son œuvre de créateur. La révolte des anges, qui a amené le péché originel, et la révolte des hommes, qui ont péché, a rendu cette mission beaucoup plus difficile. Donc, il y a des avènements et des chutes de civilisation les unes après les autres. Et très souvent, on est conscient de choses qui sont mises en circulation dans le monde et qui ne sont pas du tout dans le sens de la création, telle que voulue par Dieu. Onzièmement, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous sommes appelés aussi à la co-rédemption. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a mérité la rédemption complète de tout le genre humain. Nous sommes invités, nous aussi, à œuvrer avec lui pour que tous, dans leur liberté, acceptent d'être sauvés, d'être rachetés et accueillent ce qui en découle. Donc, la vérité de notre être, c'est de se situer comme co-rédempteur également. Et enfin, je mène 12e, mais remarquez que j'ai choisi entre plusieurs autres possibles ces 12 vérités. La 12e, pour être dans sa vérité d'être, c'est que tous ceux qui sont consacrés à Dieu, ordonnés, qui ont fait profession religieuse, ont ajouté une alliance toute spéciale avec Dieu. Et cela doit faire partie de son être de vérité. Parce que on n'était pas obligé, mais on a offert au Seigneur son être pour qu'il soit consacré, pour qu'il soit ordonné. Donc, il y a un lien d'appartenance toute spéciale, une alliance plus forte, une exigence réciproque particulière. Et si dans ma vie, je veux faire croître cette alliance, revaloriser ou raviver le sens de mon ordination ou de ma consécration religieuse, je dois mettre le Seigneur dans le coup. Et c'est triste aujourd'hui de voir un si grand nombre de religieux, de prêtres, de personnes consacrées qui, sous prétexte d'être plus présents au monde, se redéfinissent eux-mêmes. Pensent que le prêtre d'aujourd'hui, c'est un prêtre qui n'est pas le prêtre d'autrefois. S'ils se contentaient de changer les modalités d'action et de pastorale, ça va. Il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Au point de négliger le fait qu'un prêtre est un consacré qui doit être homme de prière, homme de proclamation de la parole, exemple, homme de service dans les sacrements. que tout le reste se greffe à ça, il n'y a pas de problème. Mais si, sous prétexte de définir la vie sacerdotale des prêtres d'aujourd'hui, on oublie les vérités de base, ce prêtre n'est plus dans la vérité et sa paix intérieure sera ébranlée. Alors voilà donc les 12 traits majeurs qui me ou nous définissent en tant qu'être humain et chrétien. Et cette description me vient de Dieu, source même de la vérité, lui-même vérité. Donc, on est être de vérité ou un être dans la vérité que dans la mesure même où non seulement on prend acte de ces 12 vérités de base, mais également dans la mesure où l'on passe aux actes sur ces 12 plans. Bien entendu, il ne s'agit pas, et je pense bien que vous comprenez que c'est pas ça que je veux suggérer, il ne s'agit pas de ruminer ces vérités consciemment, sans cesse, jour et nuit, d'en faire une espèce d'obsession, d'en vivre avec contention, d'en parler toujours et partout, mais il faut, de temps à autre, se convaincre que dans ma vie, tout doit absolument partir de là, se greffer là, s'alimenter là. Sinon, tout le reste en fait d'options, de décisions, d'actions ou d'interprétations risque fort d'être faussé et biaisé et aura, par voie de conséquence, un double malheur. D'abord, celui de troubler consciemment ou inconsciemment ma propre paix intérieure et ensuite, par voie de transfert ou de projection, de troubler la paix extérieure autour de moi. Un être vrai, et nous voulons tous l'être, et ou le devenir de plus en plus, c'est avant tout et surtout celui ou celle qui connaît et vit en conformité avec ce profil d'être que Dieu a tracé pour nous. Et avant de prétendre que je puis dire vrai et agir vrai, je dois être vrai. Ces 12 vérités dites de base fixe donc le plus profond de mon être dans la vérité, car tout cela vient bel et bien de Dieu et non des hommes. Et ce ne sont pas des vérités négociables ou facultatives. Je dois m'en laisser imprégner d'abord et je dois m'en laisser inspirer et conditionner dans le bon sens du mot ensuite. Bien entendu, par-dessus cette couche la plus profonde de ma vérité d'être, se situent en remontant vers la surface d'autres couches de vérité auxquelles je me dois également de faire face, comme par exemple la vérité de mon caractère, de mon tempérament, de mes aptitudes, de mes sentiments, de mes défauts, de mes lacunes, de mes blessures. Ça, c'est à chacun d'y voir. Et j'ai pas l'intention aujourd'hui d'aborder ces plans-là, qui sont plutôt de nature psychologique et fonctionnelle, si importantes soient ces défis. Je me contenterai plutôt de préciser que la vérité d'être essentielle est celle qui repose et doit reposer d'abord solidement sur les 12 vérités de base que nous venons de considérer. La vraie lumière sur le reste ne peut se faire qu'à cette première condition. Et c'est d'ailleurs pour ça que bien des analyses du moi, des retours sur soi, tournent souvent en rond chez plusieurs. Il ne donne que peu ou pas de satisfaction et de résultats ou de lendemain, et doit toujours se recommencer ou se poursuivre. Parce que on essaie de connaître, d'investiguer et de trouver la vérité dans le moi sans lui. Et le moi sans lui est toujours hypothéqué et hypothéquant. Je vous donne comme référence, si quelques-uns veulent en faire un sujet de méditation, ce texte du début de la première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 10, qui s'intitule « Marcher dans la lumière ». Et on trouve ce Jean qui nous dit ceci, rapidement, « Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. » Un peu plus loin, « Si nous disons, par exemple, que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Mais si quelqu'un vient pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. » Ailleurs, il précise, « Qui dit, je le connais, Dieu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Alors, par conséquent, Dieu étant la source de la vérité, si on n'adopte pas ces vérités de base, on vit dans une part d'illusion. Passons à la troisième et dernière démarche concernant ce fleuve de vérité. On a vu jusqu'ici que Dieu est la source de vérité. Après, on a vu une douzaine de vérités qui précisent qu'on peut appeler la vérité d'être ou de la nature de notre être de vérité. Arrêtons-nous dans une troisième démarche, comme nous l'avons fait pour la charité et comme nous le ferons pour la liberté, à nous demander, y a-t-il quelque chose qui peut bloquer à l'entrée dans mon être la vérité ou à la sortie de mon être l'écoulement du fleuve de vérité? Voyons donc d'abord des facteurs favorables à la découverte et à l'accueil de la vérité. Bien, inutile d'insister longuement, c'est la vie de prière et de recueillement qui favorise l'écoute de l'Esprit-Saint, qui nous donne le plus de chances de capter à l'entrée et d'accueillir la vérité. Jésus nous en a assuré, le Paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Donc, il va nous amener à la compréhension progressive de la réalité de Jésus et du sens des choses dans leur rapport avec lui. Et on a eu cette assurance, je l'ai évoqué tantôt, que l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira ce qu'il entendra, et il le dira, et il dévoilera les choses à venir. Autre moyen de ne pas errer ou de glisser dans la libre interprétation de la vérité, c'est de s'assurer d'être et de demeurer toujours en conformité avec le magistère enseignant de l'Église et la tradition de l'Église. Évidemment, ça ne veut pas dire que nécessairement on doit être d'accord avec telle ou telle personne, ce que telle ou telle personne pense, croit, comprend ou déclare. Il y a des dissidences et des impasses possibles. Mais on doit rester greffé à l'Église comme source pour nous consolider dans la vérité. Un autre moyen, c'est de recourir au vrai de vrai communautaire chrétien, où dans le partage, le discernement spirituel, la prière, nos bribes de vérité à chacun d'entre nous s'associent et se confirment ou s'infirment. J'ajouterais même un autre, mais c'est plus une mise en garde ici, se méfier du doute systématique. C'est une tentation qui guette actuellement beaucoup de sages et intelligents, de raisonneurs, de faux prudents, et même certaines personnes en autorité qui manque de connaissance ou d'expérience de la vie spirituelle mystique. On a une tendance qui est regrettable, dont je parlerai dans les interpellations à l'Église, un genre de glissade peu à peu et sûrement vers un certain doute chronique. Au début, on veut faire un peu comme saint Thomas d'Aquin faisait, et saint Thomas, on sait que quand il présentait ses thèses de théologie, il formulait lui-même des objections, des difficultés, et il répondait à cela pour mieux les réfuter, mieux nous éclairer. Mais après ça, il est venu Descartes avec son doute méthodique. Et beaucoup aujourd'hui, sans s'en rendre compte, sont entraînés à mettre en doute constamment tout ce que l'Esprit suggère en Église. On voit des gens qui sont en train de développer une méfiance chronique face aux révélations, aux inspirations, au prophétisme, au merveilleux. Tout cela est bel et bien enveloppé dans le vêtement de la prudence, de la mise en garde, faut faire attention. Mais on affirme ça sans discernement, sans vérification et parfois sans amour. Et alors s'installe facilement dans l'Église un genre de doute méthodique. Je dirais non plus que la vérité est prérequise et indispensable à l'obligation de se poser les vraies questions aujourd'hui. Elle-même prérequise pour obtenir les vraies réponses du Seigneur. Ça a l'air un peu paradoxal, mais beaucoup de gens ne se posent pas les vraies questions parce qu'ils ont peur des réponses. Ou encore, posent les questions auxquelles ils ont déjà la réponse ou aimeraient avoir la réponse de leur choix. La vérité, si elle n'est pas là, risque de nous induire en erreur. Mes chers amis, je vois que le temps passe. Il y aurait bien d'autres choses que j'aimerais mettre au point. Mais disons ceci, qu'il y a également des facteurs défavorables à l'acquisition de la vérité. Et le premier facteur défavorable, c'est fuir la vérité, avoir peur de s'y arrêter, de l'entendre, de se la faire rappeler. Le monde a développé une espèce de peur actuellement de la vérité. On sait tous ces nombreux dictons, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, toute vérité est bonne à dire, si elle est dite comme il faut, puis si elle est vraie. La vérité engendre la haine, dit un proverbe grec. Et toutes ces choses-là ont amené les gens à se contenter d'un clair-obscur du monde. Et cela, à force de vivre dans le clair-obscur, ou dans l'obscurité plus ou moins claire, on devient de moins en moins apte à capter la vérité et la lumière. Un autre facteur défavorable, vivre dans le mensonge face à soi-même, se fuir, sachant au fond ce qu'on devrait penser, ce qu'on devrait dire, faire ou être. Le refus de faire face, même douloureusement, à la vérité qui nous accuse et pourtant pourrait nous libérer. Le refus de nous dégager de certaines fausses sagesses humaines, sachant très bien qu'elles vont à l'encontre de la sagesse de Dieu. On peut mettre également dans la liste des facteurs défavorables à l'accueil ou à l'exercice de la vérité tous ces jeux subtils, risqués et souvent calculés avec la vérité, comme la vérité diplomatisée, la restriction mentale, l'équivoque calculé, le refoulement par peur, la flatterie, l'affirmation non vérifiée. Bien entendu, l'attentat le plus clair et le plus net à la vérité, c'est le mensonge, qui consiste à s'exprimer contrairement à sa pensée avec l'intention de tromper. Puis là, les théologiens nous font toutes sortes de distinctions, tromper soit par plaisanterie, alors on appelle ça le mensonge joyeux, soit par intérêt, c'est le mensonge officieux, soit pour créer un tort à autrui, ça s'appelle le mensonge pernicieux, puis là, on distingue tout ça. Mais à partir du moment où quelqu'un joue au mensonge, il est clair et net que le fleuve de la vérité ne l'envahit pas. La dissimulation ou l'hypocrisie, qui consiste à agir contre la vérité par des actes, donc de travestir la vérité par des motifs ou des gestes qui cachent la fausseté ou l'erreur, la vanité, la vantardise, ou encore la fausse humilité. C'est saint Augustin qui disait, quand vous mentez par humilité, si vous n'étiez pas pécheur avant, vous le devenez en mentant. Qu'est-ce que c'est que la fausse humilité? C'est de passer sous silence le beau, le vrai, le bon, le grand qu'il y a en nous, pour simplement se limiter au moindre. S'attribuer des lacunes, des intentions mauvaises non fondées, nier ce qui est valable en soi. Alors, on pourrait prolonger cette feuille longuement. Je dirais tout simplement ceci, ou je pense que j'aurai pas le temps de le dire. Nous, avant de terminer ce thème de la vérité, pensons à ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, avec tout ce problème de la Russie et de la Chine, par exemple, qui veulent se démocratiser, mais qui depuis des décennies ont fui la vérité, ont même changé les livres d'histoire. Je me rappelle quand j'étais professeur à l'université, professeur sur le socialisme et le communisme, et que j'avais à parler de la vie de Staline, puis tout ça, puis les dernières fois j'ai donné des cours, c'était la 27e version revue, corrigée, changée de la biographie de Staline. Et aujourd'hui, tous ces peuples qui ont fui la vérité vont prendre encore des décennies avant de pouvoir accepter de vivre et d'être en vérité. Toute leur documentation, tous les récits ont été biaisés pour justifier leur position communiste. Et par conséquent, quand un jour on va commencer à discuter d'histoire avec eux, on va avoir deux histoires du monde, deux histoires de la dernière guerre, deux histoires de tous les événements. Et c'est déjà à l'état de conflit en Russie, où, au dernier parlement, il y en a qui se sont levés pour dire que les documents de l'accord concernant les républiques baltes étaient des documents forgés. Et qui peut dire maintenant, quand on a cru et que des gens se sont compromis par leur signature dans ce sens-là? Alors, il ne faut pas jouer avec la vérité, mais la vérité cherche comme un grand fleuve à nous alimenter.